Nous sommes le 6 février 2013. Madame Cognard traverse la rue pour aller, comme chaque jour, boire son petit café chez Monsieur Antoine. Au même instant, Ernest Ducoin, chauffeur-livreur, au volant de son berlet, se dispute avec son épouse au téléphone. La rencontre est fatale. Madame Grognard est amenée aux urgences. Les avis sont critiques. Pourtant, à cet instant, sa vie va basculer. Puisque dans le lit d'à côté se repose Benjamin Nicoletto, garagiste maladroit, qui vient de déposer un véhicule sur son pied. Au premier regard, c'est le coup de foudre. 6 mois plus tard, il se marie. Durant ce temps, Monsieur Pinochard, 96 ans, se rend compte qu'il lui manque un doigt.
Ah, c'est chelou.
Et réalise par la même occasion que sa mémoire vient de lui faire un terrible coup de jarnac. Il cherchera toute l'après-midi où il l'a perdu. Et c'est sa jeune voisine, Madame Claquemuche, née Berthelot, qui lui avouera dans un souffle que c'est un accident dans sa jeunesse avec le chien parental. Monsieur Pinochard craint qu'il ait perdu plus qu'un doigt. Au même moment, à Die, sous-préfecture de la Drôme, 2 animateurs débutent une émission sur le cinéma. Le premier, avec des lunettes, Gwen, ancien barbouze au service de Sa Majesté. Gwen n'aime pas le cri des cormorans le soir au-dessus des joncs. Gwen n'aime pas les règlements de compte à hockey choral. Gwen aime le goût des tartines trempées dans le café, le froid de son AK-47 quand il va se coucher. Et Hugo, un ex-mercenaire sud-américain. Hugo n'aime pas les sourires commerciaux des vendeuses quand il ouvre la porte des magasins. Hugo n'aime pas les récits qui durent des plombes pour en arriver à une conclusion idiote. Hugo aime un cri dans la nuit. Hugo aime l'odeur du napalm le matin. Hugo aime le tremblement de sa voiture quand il fonce l'autoroute à Vivaldi.
Zéro. Bienvenue à ATC Radio Divoi, 107.5 FM, www.rdawa.fr.
Oui, eh bien, bonjour mon cher Hugo.
Bonsoir, il est 4h.
Oui, tout à fait. C'est quand même bonjour. On n'est pas au sport d'hiver.
Mercredi.
Tout à fait, toute la journée jusqu'à 23h59, seconde où nous basculerons logiquement vers le jeudi, sauf erreur
de
l'espace-temps continuum.
Il fait beau.
Oui, il fait beau. Pas ça.
Les hirondelles chantent. L'orage a claqué. L'hiver est fini.
Voilà.
Rangez vos skis. Sortez vos planches.
Alléluia. Alléluia.
Ce moment est offert gratuitement.
Voilà. Jeff, si tu nous entends, glou glou.
Glou glou.
Oui, Jeff Buckley.
Glou glou.
Oui, lui aussi, il avait beaucoup aimé.
Je ne parlerai qu'à la fin de cette émission.
Lui aussi, il avait beaucoup aimé le petit Grégory. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de Jean-Pierre. Jean-Pierre.
Chevènement.
Non, ni Jean-Pierre Papin.
L'homme qui a vu Dieu.
Non. C'est ça, bout du tunnel, effectivement. Non, pas l'homme de Belfort, mais l'homme de
Rouen.
De Rouen, le 4-2, oui, en présence. Total respect du 4-2, wesh, on est dans la place.
Bon,
ouais, les trois gros, qui ne sont que deux. Donc voilà, si vous, un jour vous allez à Rouen, allez manger aux trois gros. C'est la version pique du.
Ou acheter un char d'assaut aussi.
Aussi, c'est vrai, on peut, oui.
À la manufacture des arts et des armes.
Ouais. C'est ça. Tout à fait. Eh bien donc, monsieur Jean-Pierre Jeunet, né le 3 septembre 1953 à Roannes, dans la Loire, quête de France, Europe, planète Terre.
D'accord.
Ok. Et qui avait commencé à faire des clips vidéo, puisqu'il avait fait le fameux Tomber pour la France.
Tomber pour la France.
Voilà, d'Étienne Dao. Non, là, tu chantes trop fort. Étienne Dao, c'est plus bas. C'est un peu Calabroni, mais en moins fort. C'est ça. Et puis, La fille au banilon.
Julien Clerc.
Voilà, superbe clip. J'ai beaucoup adoré. Et puis, il rencontre Marc Caro. Celui qui fait des carreaux. D'accord, ok, super, merci. Je suis
Je suis enthousiasmé par ton sens de la propos, mon cher Hugo.
Je n'ai pas compris.
Caro, à la pétanque.
Ah.
Tentative d'humour à 16h et des poussières.
Je suis en hypoglycémie.
Oh merde.
Tu m'as toujours pas amené une tarte.
Non, par contre, je peux t'enfiler une. Donc voilà. Et qui en font quelques courts-métrages. L'évasion en...
Non des moindres.
Et non des moindres, c'est vrai.
En 78.
En 78, comme diraient nos amis belges, n'est-ce pas ? L'évasion. Et puis en 1980, Le Manège.
Oui.
Tout à fait.
Plusieurs... Non, mais ils ont été plusieurs fois titrés.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
On the France.
J'essaierai de les trouver pour les mettre sur le site de RTWA.
RWWA.
Voilà. ATC RWA. Le bunker aussi de la dernière rafale en 1981.
Oui.
Et c'est en 91 qui s'est mis sur...
Je voulais dire un mot là sur le dernier
mais vas-y. Métrage.
Il est bien celui-là. Non mais c'est pour dire parce que celui-là a été mûrement pensé quand même plus que les deux premiers puisqu'ils ont travaillé je crois plus d'un an et demi. Et je crois qu'il y a Marc Caro qui joue dedans aussi.
Oui mais il a l'air de pas mal jouer ce monsieur Marc Caro.
Non, il joue que dans ses films.
Oui, bah, c'est déjà pas mal.
Mais tu t'es énervé il a... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu veux qu'on en parle?
Vas-y, on se fight. Oui, puisqu'il avait fait Dante...
01.
Voilà, qui est exceptionnel comme film. Un peu sombre, il est vrai, mais très bien.
D'accord.
Et puis, effectivement, en 91, nous avons...
Delicatessen.
Delicatessen. Voilà, qui est vraiment un superbe film sur un immeuble.
Et Essen, ça vient manger en allemand, c'est un rapport, non?
Bah oui. Ah bah oui.
D'accord.
Ah bah oui. Oui, parce que c'est en fait c'est l'histoire d'un ancien clown.
Clown.
Clown qui est joué par le Dominique Pinon. Luison, alors Dominique Pinon, recherchez bien les noms parce qu'il y en a certains acteurs qui vont pas mal revenir hein, dans les.
Oui,
dans
ça
les
films. C'est même l'acteur fétiche de monsieur.
Oui, tout
Genette.
À fait, tout à fait. Et qui est engagé comme concierge dans un hôtel, le quartier peuplé, entre autres, de troglodytes, d'un boucher, monsieur Clapet, qui est joué par Jean-Claude Dreyfus. Excellent. Hein. Un éleveur de grenouilles et un fabricant de boîtes à. Joué par.
Ah, j'aurais dû en amener une, j'en avais une à la maison.
Oui, c'est ça. Alors voilà. Et en fait, il se passe de drôles de choses dans cet immeuble, puisque en fait, les gens arrivent dans cet immeuble, se font alpaguer et finissent sur l'étal du boucher.
Fallait pas le dire.
Pas quand même, c'est connu, Delicatessen.
Non, pas le dire.
Voilà, tout. Oh, si, quand même. Bah, si, bah, c'est l'état. Après, on ne sait pas ce qui va arriver au personnage
d'accord.
principal.
La boucherie, elle est au rez-de-chaussée. Voilà, donc, ça intéresse.
Voilà, alors évidemment, il y a des gueules du cinéma français. Il y a Tiki Olgado.
Rufus,
Dominique Pinon, comme on avait cité, et Jean-Claude Dreyfus.
Comment s'appelle la fille Nanty? Non, il n'y a pas non, Isabelle Nanty là-dedans
non, pas dans celui-là. Il y a Karine Viard.
Ah, voilà.
C'est Karine Viard qui joue la.
J'ai confondu.
Voilà.
Qui joue Julie.
Voilà, c'est ça.
La violoncéniste.
Voilà, tout à fait. Et oui, puisque Dominique Pinon, lui, joue de la scie musicale, comme notre cher Léo.
Léon.
Léo.
Léo.
Oui, les hurlements de Léon.
Léo.
Léo. Léo. Léo.
Les hurlements de... Je vois pas le rapport.
Bah, tu connais pas la chanson, les hurlements de Léo?
Non.
Voilà, il joue de la scie musicale, mais il en joue tellement mal que même les voisins en parlent.
C'est un concept à toi tout seul. Hein.
Il y avait Chick Ortega aussi, qui jouait le facteur, et qu'on verra sous les traits de Jackie Sueur dans Doberman, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci.
D'accord.
Ouais. Donc effectivement, un film qui a quand même remporté un vif succès à ses débuts, puisqu'il a eu le meilleur, enfin le César du meilleur...
Non, là, il a été plusieurs fois césarisé.
Césarisé.
Yeah.
Césarisé. Oui, effectivement, comme la meilleure première œuvre, le meilleur scénario original.
Oui.
Ou adaptation, hein, c'est dans la catégorie. Meilleur décor, et ça, de toute façon, oui, effectivement, parce que le décor est quand même super important dans ce film-là, quoi. Et le meilleur montage aussi. Non, vous inquiétez pas, Hugo s'amuse avec les micros. Vous inquiétez pas, des fois ça fait peur. Hein. Je vous dis, j'ai peur. Au secours.
Malade.
Venez à mon secours. Non, franchement. Et puis, il y avait la fameuse scène là où Jean-Claude Dreyfus fait l'amour. Tu vois, où il y a
c'est
tous les mouvements.
Annonce.
Voilà, c'est ça, c'est la bande-annonce, effectivement. Et franchement, elle est excellente. Moi, ce film, je l'ai adoré. C'est vrai que c'est peut-être... moi, je dirais, pour rappeler notre cher Tarkovski, je pense que dans ce premier film, effectivement, tout l'univers de Jeunet est déjà annoncé, quoi. Déjà, rien qu'au niveau des comédiens, et puis au niveau de la façon de monter, aussi l'importance de la musique... Il y a tout est dit, comme on dit.
Si tu dis ça, parce que c'est un mec qui vient de ton quartier.
Wesh, ouais, mais c'est Juan, attends, ouais, on en voit du gros. On verra quand il y aura un réalisateur qui viendra de Die.
On n'en a pas.
Pas encore.
C'est vrai. Nous allons passer à l'opus suivant.
Oui, tout à fait.
On reprend les mêmes.
L'île des enfants.
Non, la cité.
La cité des enfants disparus. Oui, mais non, parce que j'avais eu la version...
1995, c'est une coproduction allemande et espagnolaise. Avec Ron Perlman.
Oui, tout à fait, Ron Perlman.
Que l'on retrouvera aussi après.
Oui, tout à fait, ben oui.
Judith Vité, je crois.
Vité.
Et Daniel Emile Fork.
Oui, c'est celui qui fait le fameux Crank.
C'est bien.
Qui a vraiment une tronche, hein, lui. Hein. Il fait peur, mais en même temps, c'est un peu son rôle aussi.
Oui. À une époque donc indéterminée, dans une société steampunk.
Ouais, le steampunk.
Oui. Au large d'une ville portuaire. Non, fortuaire.
Portuaire. Oui.
Crankville.
Crank, oui. Le professeur.
Oui. Quoi ? T'arrêtes. Vie sur une clé.
Non, pas sur une clé, il vit sur une île.
C'est bien.
Encore, tu me diras. Plateforme pétrolière.
Artificiel, oui. C'est un vieil homme, un être fruit.
Fruit ? Oui, parce qu'il est fruit de la création d'un scientifique qui a disparu.
Comme les clones qui l'entourent et d'autres créatures ratées. Crank ne rêve pas, c'est son problème.
Eh oui.
Ainsi fait-il enlever des enfants dans la ville proche afin de leur voler leurs rêves. Mais il n'y trouve que des cauchemars. Miette.
Oui, Miette, donc c'est la fameuse Judith Vité.
Bien. Une petite voleuse débrouillarde exploitée par deux sœurs siamoises.
Oh là là, sacré.
Aussi cruelle que Cupide, s'allie avec Juan.
Juan, donc Ron Perlman. Hein.
Un costaud de foire afin de retrouver Denré.
Le petit gamin muet. Enfin,
le petit frère de Juan.
Qui ne pense qu'à bouffer.
Que Crank a fait enlever.
Ah oui, alors là, effectivement, les clones sont joués par Dominique Pinon. Voilà, et le professeur. Enfin bon, je vous dis pas le. Parce qu'il y a un secret, évidemment. Et il y a le rôle du scaphandrier aussi, qui est pris par cet acteur. Jean-Claude Dreyfus qui réapparaît. En oui. Marcello, le célèbre dresseur de puces. Et puis il y a donc Geneviève Brunet et Odile Mallet qui jouent Zette et Lynn, les sœurs siamoises, hein, qui sont vraiment horribles. Et Rufus qui est leur souffre-douleur. Mireille Mosé qui joue Mademoiselle Bismuth, tu sais, la toute petite dame qui est fruit d'une création. Tiki Olgado qui joue le vieux saltimbanque.
Oui.
Qui fait souvent des petits rôles. Hein, chez... Et notre chère gueule aussi, François Hadji Lazaro qui joue le cyclope tueur. Là, tu sais, la séquence où il tue le type et qui lui met le bitonion pour qu'il se voie et se faire assassiner lui-même.
Trop fort quand même, ça. Il ne coupe pas l'appétit.
Voilà, c'est ça. Et puis Serge Merlin qui joue Gabriel Marie, le chef des Cyclopes, et qu'on retrouvera plus tard dans Amélie Poulain sous les traits de l'homme de verre. Et Jean-Louis Trintignant qui joue la voix du vieux Erwin. Tu sais, le cerveau là.
Il prend souvent des voix off.
Hein. Oui. Et puis là, en plus, pour dire que c'est le cerveau en plus qui est adepte de la migraine. Il n'est qu'un cerveau et en plus il a la migraine. Décidément, pas de chance. Moi, j'ai aussi adoré.
Je dirais rien.
Voilà. Les costumes étaient de Jean-Paul.
Gauthier ?
Oui, tout à fait, tout à fait, oui. Et la musique d'Angelo Badamalenti.
Je crois qu'ils ont créé des logiciels spéciaux pour l'époque, je crois.
Ouais. Bah ouais, parce que c'est un sacré truc, hein, tous les décors. Enfin, je pense, bon, tu me diras, depuis on a fait mieux, hein, entre Les Seigneurs des Anneaux et autres.
Oui, c'est pas mal,
Capitaine
pour 95.
Sky aussi. Ah oui, non, mais c'est pour ça, moi je dis, et puis c'est vraiment un petit truc. Et je dirais que ça fait un petit côté, effectivement, comme on disait, steampunk, mais surtout des années 50, et toute cette ville, ces cyclopes là qui kidnappent des enfants, le groupe des enfants de miettes, cette histoire d'amour qui qu'elle a entre guillemets avec One. Non, franchement, celui-là, il mérite d'être vu, de toute façon, quasiment tous. Disons que c'est vraiment Délicatessen et la Cité des Enfants Perdus. C'est vraiment les chefs-d'œuvre oniriques, fantastiques, voire inquiétants, comme Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Ça, on le retrouvera moins dans les films suivants. Hein. Bon, à part évidemment le film qui suit, puisque là, effectivement, on est plus dans les inquiétants.
Est-ce que tu... je sais pas si t'as précisé tout à l'heure qu'il y a Marc Caro qui a quand même fait des BD. Hein.
Oui, mais ça, de toute façon,
on
ça
le
se voit.
Dans Métal Hurlant.
Oui, tout à fait. Oui,
mais... glacial.
Voilà, de toute façon, ça se voit. Hein. Je veux dire que ce soit dans Délicatessen.
Oui, mais fallait le dire aux gens.
Oui, mais c'est bien, tu as bien fait de le dire, mais je confirme ton propos, mon cher. Je le confirme, je l'affirme, je me lève debout, ce qui n'est pas très radiophonique. Je l'avoue, mais oui. Je le dis. Voilà. Non.
Parce que tu te lèves pour...
Non. Ça, on va pas la faire. Même si elle est saplette. Bon, voilà, c'était pour la rime. Et ensuite, le tournant, hein, je dirais quand même quelque part, de la carrière de Jean-Pierre, c'est que Hollywood l'appelle à la rescousse.
Oui, mais c'est pour remplacer quelqu'un.
Oui, bah Danny Boyle, celui qui a fait Sunshine.
Pour retrouver donc en 1997, Alien, la résurrection, le quatrième film de la saga.
Mmh. Avec Sigourney.
Sigourney Weaver.
Et Winona
Ryder.
Voilà, c'est ça.
Et encore Ron
Perlman et Dominique Pinon, évidemment.
Pinon, ouais, voilà.
C'est là qu'on dit que, quand même, hein, c'est bien les copains, quand même. Hein.
Oui.
C'est bien foutu, quand même, ce cinéma. Moi, j'adore ça.
Avec sa petite pointe de humoristique, le mettre sur un fauteuil roulant.
Oui, voilà, c'est ça.
Donc, 200 ans après les événements d'Alien 3, The Military Scientist.
Oh, c'est vrai.
Yeah. Créé sur le vaisseau spatial USM Auriga, un clone d'Alien. Non, pas d'Alien. D'Hélène Ripley, voilà. En utilisant son ADN à partir d'échantillons de sang prélevés avant sa mort. Donc, en raison de son ADN mélangé avec l'alien, pendant le processus de clonage, elle développe une force accrue et des réflexes surhumains, du sang acidifié, qui lui servira donc pour ouvrir le court-circuit au début du film.
Etc. Ouais, tout à fait.
Et un lien empathique avec les aliens.
Finalement, c'est la sœur Alan Armstrong.
Oui.
des forces surhumaines, voilà.
Nul, celle-là, tu la couperas.
Sûrement pas, mon petit pépère, sûrement pas.
Un groupe de mercenaires donc arrive avec leur vaisseau, le Petit, et une cargaison de plusieurs êtres humains, pardon, mis en stase. Et une alarme retentit.
Oh non!
Et là, miam miam.
Miam miam? Oui. Je la connaissais pas, moi je connaissais
pas. C'est la sœur à miaou miaou!
Oui, tout à fait. Alors moi, c'est un petit peu le point noir de ce film. Je trouve que ça fait vraiment hyper récurrent où les scientifiques militaires créent des armes et à chaque fois, oh, c'est ballot, c'est disons, ça leur échappe, dis donc.
Ils créent pas des armes.
Ils créent pas des armes?
Non, ils créent un alien, c'est différent. Ils essaient de contrôler.
Oui, bah, c'est pour faire quoi? C'est pas pour faire joujou, non,
bien
ni,
quand,
ni pour servir aux messes.
Tu sais, il appuie sur le truc et qu'on voit les vapeurs.
Ouais, les vapeurs, ça
c'est bon. Hein.
Ouais.
Comment pareil avec
non,
toi.
Mais tu sais qu'il est interdit de faire du mal aux animaux, hein, sur les lieux de tournage.
Donc, que dire de plus? Alors, la première réplique de Ripley en voix off, donc c'est « Ma maman m'a toujours dit que les monstres n'existaient pas. »
Ça fait peur.
Voilà, non, mais ça te renvoie à celle prononcée par Newt à l'épisode 2.
Oui,
Alien, le retour.
La petite fille, ouais.
Donc ça, c'était... un petit, comment on appelle ça, camouflé? Non.
Non, un petit hommage, moi je dirais.
C'est vrai?
Ou un petit lien. Ou,
voilà. Il y a aussi la séquence de basketball, réalisée elle-même et en une seule prise, qui a épaté tout le monde sur le tournage, puisque Jeunet avait dit, laisse tomber, on fera avec un trucage. Oui. Elle a dit, non, je vais ici.
Voilà, elle mêlait comme ça, si vous en êtes. Et d'ailleurs, ça a été aussi un film assez compliqué pour les actrices, surtout le passage sous l'eau.
Dans la cuisine inondée.
Voilà, dans la cuisine inondée, puisqu'il faut savoir que Winona Ryder est atteinte d'ablutophobie, c'est-à-dire qu'elle a une peur irraisonnée d'être noyée. Donc voilà, pour elle, ça a été hyper compliqué.
Oui, même si tu sais nager. Quoi.
Voilà, oui, non. Bah oui, c'est le côté irrationnel de la phobie. Hein. Donc voilà, ça obéit forcément à aucune logique.
Oui, ça peut même aller jusqu'à la peur de prendre un bain, je crois.
Ah, oui, tout à fait.
Dans les cas extrêmes.
C'est pour ça qu'on la prend plus maintenant, Winona Ryder. Elle sent trop mauvais.
Pitoyable.
Merci. Et puis aussi.
C'est nudissime, ça, de dire ça, quoi. Mais tu dis ça, Damel Albarn, je veux bien, mais...
Oh, t'es sûr? Et oui, et puis et qui, aussi, j'ai appris que Sigourney Weaver était claustrophobe.
Oui, non, mais elle était bien, cette scène, avec non, les aliens qui nagent.
Voilà. Oui, ça ramène Muriel Hermine.
J'ai pensé à une bonne séance d'entraînement pour nos nageurs français.
Oui, c'est ça.
Pour ça qu'ils vont vite.
Voilà, c'est... Et puis, oui, parce que je sais pas si tu te rappelles de ce film avec Sigourney, Copycat, tu sais, où elle jouait une chasseuse de serial killer et qu'elle, avait, qu'elle était claustrophobe. Comme quoi tout se suit.
Ah oui. Mmh. Tu en sais des choses.
Bah oui, un peu mon neveu.
Comment tu fais?
Et ça s'appelle la mémoire.
D'accord. Donc pour sa sortie en DVD, donc quelques séquences ont été changées, notamment le générique d'entrée est totalement différent. La fin du film aussi, où elle est plus pessimiste, on voit donc le vaisseau atterrir. Que parce qu'on était resté sur une vision optimiste, puisque tu sais, avec la notion de la Terre.
Ouais, ouais, et puis.
Quoi ? Non, c'est moi d'abord. C'est moi qui l'ai trouvé. Moi qui l'ai patch.
Mais vas-y, vas-y.
Donc le vaisseau atterrit et donc on voit Ripley et Cole. Cole qui est joué par Winona Ryder. Qui est donc un
répliquant.
Voilà. Donc on les voit qui s'avancent sur une falaise et du haut de la falaise on peut voir en arrière-plan Paris complètement dévasté.
C'est marrant, c'est toujours Paris dévasté. Chez les Américains, ils aiment bien.
C'était aussi dans quoi ce film d'action là qui avait fait couler la tour Eiffel. Ah, dans G.I. Joe,
ouais, dans le premier, ouais, effectivement. Ouais, non, mais
qu'est-ce
tout.
Qu'ils ont
non, mais même. Non, mais oh, dans Armageddon, je te signale aussi. Hein, je crois qu'il y a des bouts de météorites qui atterrissent sur Paris. Et puis, il y avait aussi Phénomène, là où les mecs ils commençaient à se suicider. Là. Et bien, à la fin du film, ils commencent à se suicider à Paris. Donc voilà. Oui, c'était plus pessimiste parce que déjà, c'était la première alien où il y avait quand même la Terre. En tant qu'entité physique, hein, on n'en parlait pas, c'est vraiment, elle est là.
Oui.
Et puis il y avait aussi ce côté-là où effectivement, eh ben, la reine alien a acquis une capacité humaine, elle possède un utérus. Et elle crée, pas un lien, mais un mi-alien et mi-humain. Quoi.
Ce qui avait gêné sa sortie en salle aux États-Unis, ça.
Ouais, donc effectivement, il y avait ce côté un peu, pas dirais pas plus pessimiste, mais c'est vrai que ça donne un côté curieux, puisque effectivement, dans les premiers de Cameron, je veux dire, t'avais l'extraterrestre et nous. Voilà, c'était distinct, on savait qui étaient les méchants, qui étaient. Là, ça devient un peu plus flou, quoi. Hein. Surtout qu'il y a le rapport empathique entre Hélène. Hélène, Alien, c'est vrai non, que ça se ressemble.
Là, il a fait juste une histoire d'amour entre sa mère et ses enfants.
Oui, mais voilà. C'est... Oui, non, non, mais. Oui,
c'est
non,
un peu mal tourné parce qu'il y a un peu des jalousies, mais c'est tout.
Oui, non, mais c'est ça, d'accord. Puis bon, ils ont tendance un petit peu à bouffer les gens, c'est un petit peu chiant, je l'avouerai. Mais bon, voilà, je trouve que ça donne vraiment une nouvelle vision de l'alien. C'est plus vraiment une bête, c'est aussi un animal.
Ils vont plus en refaire, non ?
Alors, techniquement, il était prévu, mais je suis pas vraiment certain que notre Sigourney replonge, quoi. Bon, après, peut-être qu'effectivement, il y aura peut-être juste un passage, en hommage, puisqu'on avait eu quand même le Prometheus. Hein,
elle en fera plus.
Mais je pense pas qu'elle en fasse. Bon, faut dire que bon, là, je passe.
Ils feront comme avec Bourne, ils changeront de.
Oui, comédien. Voilà, c'est ça, je pense aussi. Et puis, en parlant de ça, quand même, le côté américain, j'ai appris que Jean-Pierre Jeunet devait faire le Harry Potter et le.
Ah oui.
Et l'Ordre du Phénix, et qu'il avait refusé. Mm. Donc voilà. Et puis, ben, grâce à ce film, mon cher.
Il s'en suivra.
Jean-Pierre Jeunet gagne tout plein de sous et il peut enfin faire un film sans avoir besoin d'argent des autres. C'est le fameux.
C'est la Warner Bros aussi, non ? T'as pas financé là ?
Oui, non, mais il était indépendant. Je veux dire, quand il a fait ce film, il a pu faire ce qu'il voulait.
C'était le fabuleux destin d'Amélie Benko.
Benko, voilà, c'est ça. Et pas Poulain.
Non. Voilà. Ils ont changé la marque du cacao.
Oui, c'est ça. Ouais, au dernier moment, forcément, puisque ça ne l'est pas du tout.
C'était pour si vous voulez mettre du Benko sur vos crêpes.
Oui, c'est vrai.
C'est la période de Chandler.
Ouais, tout
de nos amis Friends.
Voilà, c'est ça. Donc, la fameuse destin d'Amélie Poulain, avec qui a révélé quand même.
En 2001.
Audrey Tautou. Hein.
Tout au pied.
C'est pas elle qui était logiquement. Qui devait jouer ce rôle-là.
C'est Julie Depardieu.
Non, c'était pas Julie Depardieu, je me rappelle plus. Non, c'était Vanessa Paradis, je crois.
Ah oui ?
Oui, oui. Et en fait, c'est en voyant Vénus Beauté.
C'est ce qu'il a lancé.
Ce qu'il a lancé. Et, dès qu'ils se sont rencontrés, ils ont fait quelques petites séances là. Mmh. Et puis. cette séance là. Et ben, tout de suite, il a découvert sa fameuse Améla. Voilà, et effectivement, l'histoire de cette jeune fille.
Un peu nunuche.
Moi, je dirais pas nunuche, je dirais renfermé.
C'est romantico.
Mais de toute façon, c'est l'univers gentillet de Jean-Pierre Jeunet. Mais ça a été critiqué. Hein. Il y a même une des chansons sur Amélie Poulain. Là.
Il s'agit d'une comédie romantique écrite donc par Monsieur Jeunette et Guillaume Laurent. Avec Audrey, comme tu disais. Waouh, dans le rôle titre. Donc le film est une représentation originale et parfois idéalisée de la vie contemporaine à Paris, capitale of the France, dans le quartier de Montmartre.
Oui.
Il existe vraiment le café. Hein, parce que
oui.
Qu'est-ce que je voulais ? Il m'a coupé. Quoi ?
Le café des deux mondes. Hein.
Oui, c'est ça. Il s'agit donc d'un des plus gros succès mondiaux pour un film français. Hein. Bon, je vais en parler en.
Oui.
En langue française.
Oui, oui.
Derrière Impalpable. Oui. Parce que lui, il est indétrônable.
Voilà, c'est ça. Enfin, pour l'instant.
Oui, parce qu'il est toujours en cours. Donc, voilà, qui avait rapporté, je crois, à l'époque, avec 23 millions d'entrées, quand même, 9 millions en France, et voilà. Donc, il a rapporté 173 millions de dollars dans le monde entier. Donc, dedans, comme tu disais, on retrouve donc Mathieu Kassovitz.
Qui joue Nino Quinquampoil, le fameux.
Elle est là, Isabelle Nanty, oui.
Voilà, c'est ça. C'est
Rufus, Debbouze.
Qui joue le père. Jamel Debbouze, oui.
Oui. Yolande Moreau. Pinon, simple flic.
Qui joue un client jaloux.
Olgado, et comme la voix off, aussi le narrateur, André Dussolier.
André Dussolier, oui, qui réapparaîtra dans un autre film ultérieurement.
Alors, qu'est-ce que c'est le synopsis, monsieur Gwen, de ce film ?
Alors, le synopsis, c'est très simple. En fait, c'est une jeune femme et qui est un peu enfermée dans son quotidien, puisque sa mère est disparue assez tôt, que son père. Des problèmes de communication, le fameux Rufus, et qui vit avec son nain de jardin. Et en fait, à un moment, son destin va basculer. Le fameux jour de disparition de Lady Di. Enfin, c'est pas celle qui a été élue Miss Di, hein. C'est la fameuse.
Il y a une élection Miss Di ?
Oui, Miss Di, oui, tout à fait.
Miss Clairette.
Oui, tout à fait.
C'est pas pareil.
Oui, Lady Di, celle qui aimait les rugbyman. Elle adorait les piliers. Et en fait, elle fait tomber une petite boule et ça va ouvrir une petite cachette où se trouve une boîte qu'a laissée un enfant. Et elle va partir à la recherche. Et elle décide que si l'homme qui va redécouvrir cette petite boîte va changer sa vie, et ben elle aussi, elle va commencer à bouger. Et effectivement, cet homme va pleurer et vouloir changer sa vie, et donc elle aussi. Et donc elle va aider tous ses voisins. Il y a l'homme de verre, il y a Jamel Debbouze, et celui qui est aussi Urbain Chancelier qui joue Collignon. Okay, parce que si Amélie est très gentille, elle sait aussi être assez inventif au niveau de la vengeance, parce qu'elle va le rendre complètement marteau. Comme un fameux voisin qu'elle a rendu marteau, puisqu'il lui avait dit que son appareil photo créer des malheurs. Voilà, et puis elle va aider aussi ses collègues de boulot, puisqu'il y en a une qui est Isabelle Nanty, qui est complètement hypochondriaque, et elle va leur faire croiser le chemin de Joseph, qui n'est autre que Dominique Pinon, l'amant jeune. Donc voilà, et effectivement, et puis là il va y avoir la rencontre avec Nino Quinquampoil, Mathieu Kassovitz. Voilà. Et donc, non, moi je. Après.
Quoi ? C'est pas clair.
Non, si. Ah. En fait, Jean-Pierre Jeunet avait fait un court-métrage qui s'appelle Foutaise avec Dominique Pinon, qui durait à peu près 8 minutes, où il disait.
Oui.
8 minutes, 8 minutes, oui, monsieur, 8 minutes. Et où il disait, face à la caméra, j'aime, j'aime pas.
D'accord.
Et effectivement, ça, il va le réutiliser dans ce film. Puisqu'il y a le fameux truc où Amélie n'aime pas ça. Mm. Voilà, la mère et le père. Il y a aussi Armel, la copine, comment ça s'appelle, hôtesse, qui va kidnapper le fameux, comment ça s'appelle, Nain de Jardin pour le faire voyager, pour qu'enfin son père décide de quitter la maison, puisqu'il n'avait jamais quitté la maison, parce qu'il croyait que sa fille était malade. Évidemment, tout ça magnifié par la musique de Yann Tiersen.
Hein, oui.
Ça, il faut quand même le dire. On dira aussi un hommage au canal Saint-Martin, qui a pris quand même pas mal de ricochets quand même dans cette histoire. Puisque Amélie Poulain adore faire des ricochets sur le canal Saint-Martin.
C'était le canal Saint-Martin ?
Oui.
Le vrai,
oui,
hein. C'était
le
canal de Lourdes.
Non.
Il y a un canal à Rouen ?
Non, mais il n'est pas resté qu'à Rouen, le type. Hein. Il a un peu bougé, excuse-moi.
J'en ai fait au canal des Fondeaux.
Et alors, t'es arrivé à combien?
250.
Ah ouais, quand même. Moi, je faisais un, mais bon, moi, c'est des corps humains, donc c'est peut-être pour ça que ça ne cache pas. Voilà. Et...
Tu m'énerves, peut-être. Qu'est-ce qui... Toi, t'as revu Délicat et Saigne et t'as bouffé de la viande toute la semaine.
Oui, tout à fait.
Ça c'était pour... pas, ça.
Non, mais c'était pour ma semaine de l'écologie. J'ai mangé de la viande.
C'est bien.
C'est ça.
De la viande bionucléaire.
Hein. Oui, tout à fait. Irradiée comme il le faut.
C'est ce qu'il faut, de toute façon.
Et ben, ma foi...
On s'en fout.
Oui, c'est ça.
De on s'en fout.
Oui, c'est ça. Et on continue.
Un long dimanche de fiançailles.
En 2004.
Tout à fait. Avec...
Audrey Tautou.
Yeah. Donc, c'est un film de...
Jean-Pierre Jeunet.
Oh, que surprise. Donc dedans il y a Marion Cotillon.
Oui, tout à fait, oui.
Qui... Donc encore Dominique Pinon, oui, qui joue la coach.
La ou enfin la fille de joie de la du course.
Bon, c'est.
Et bien. D'ailleurs, ça a fait une polémique, hein, d'ailleurs. Ça...
Oui, oui, on en parlera.
On en parlera.
Gaspard Ulliel.
Oui.
Clovis Cornillac.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Jodie Foster.
Ah oui, exact. Jodie Foster.
Et quelques temps d'autres.
Oui, oui, bah Julie Depardieu, Michel Vuermoz, Tiki Olgado, évidemment,
ah oui,
André Dussolier.
Albert Dupontel.
Tout à fait. Urbain Chancelier aussi qui revient. Et puis Jean-Paul Rouve qui joue le facteur. Ouais.
Je crois qu'il y a même Tiki Cario qui joue le rôle du capitaine.
Oui. Non, non, lui, il joue un détective.
Ah oui.
Germain Pire, le détective privé.
Ah d'accord.
Là aussi, il y avait pas mal de jeux de mots sur son prénom au détective. Puisqu'il cherche... enfin, on va se lancer dans le synopsis.
Oui. Donc, c'est d'après le livre homonyme de Sébastien Japrison.
Japrison, oui.
Oui, mais je crois qu'il a mis quand même... Il a pensé pendant 10 ans à celui-là, quand même, de film. D'accord. Mais il n'a pas été tourné dans la Somme, hein, comme on pourrait le croire.
Ouais.
Dans les tranchées de la Somme, pendant la Première Guerre mondiale, oui, vas-y, avant que je...
Non, 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 mais je disais justement dans la Somme.
T'avais lancé la... T'aimes ça couper les gens.
Oui.
Je me retirais de ces missions. Dans les tranchées de la Somme, pendant la First Guerre mondiale, 5 soldats sont accusés de s'être automutilés pour échapper à leur devoir. Oui, on se coupait le doigt pour ne pas tirer avec la gâchette.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est bien. Donc ils sont condamnés à mort par une cour martiale et donc ils sont conduits jusqu'à un avant-poste nommé
Bingo Crépuscule.
C'est bien. Et abandonnés à leur sort dans
le No Man's Land.
C'est bien. Qui sépare les deux camps. Donc parmi eux figure Manek.
Voilà, qui est le Gaspard Ulliel.
Voilà, le fiancé de l'héroïne du film.
Et donc qu'on surnomme le Bleuet aussi.
Oui. Une jeune romantique prénommée Mathilde, Audrey Tautou.
Ouais, ouais.
Qui ne... Elle est très très con. Mais t'as déjà vu des interviews d'elle? Quand elle parle, on va pas en parler.
On va peut-être pas oser la faire celle-là, mais...
C'est vrai?
Non, non, mais sans doute, non, non.
Non, moi je la trouve con. Je l'ai vu dans Thérèse d'Esquirou. Oh là là, je suis désolé.
Dans L'Auberge espagnole aussi.
Ouais, non, mais elle est con. Une tête de con.
J'ai jamais vu une tête de con.
Alors il m'a coupé. la fiancée.
La peau.
Elle est habillée pour l'hiver, là, c'est super, merci.
Une jeune romantique dont prénom est Mathilde. Qui... Non, mais elle est con.
C'est super.
C'est comme un peu Marion Cotillard, de toute façon, je pense qu'il est...
Oui, tout à fait. Bon, c'est l'actrice française.
Voilà. Une jeune romantique dont prénom est Mathilde qui ne voit pas, qui ne croit pas, pardon, à la mort de son amoureux. Donc, s'il était mort, elle le saurait. Donc, forte de cette intuition, elle mène son enquête et recueille peu à peu ces indices qui vont l'amener à découvrir ce qui s'est passé ce jour-là à Bingo Crépuscule. Donc, utilisant des superstitions, elle est amenée, virgule, à souffler la poussière qui voile cette affaire sombre et mystérieuse.
Mmh, tout à fait, oui, parce qu'effectivement, les gens ont disparu à Bingo Crépuscule, mais ils n'ont pas... tant disparu que ça. Parce qu'en fait, elle va rechercher aussi au niveau des compagnes de ses soldats, puisque quand même, ça dure sur quelques temps, cette histoire. Puis il y avait, comment il s'appelle ? Il y a Denis Lavant, et puis Jean-Pierre de Haroussin, voilà, qui joue aussi.
Ah oui, oui, oui. Oui.
Puisqu'il y a une histoire, comme l'un ne peut pas avoir d'enfant, donc il demande à son camarade, voilà, de le remplacer. À l'époque, on n'avait pas d'éprouvette.
Non.
Donc voilà, et puis effectivement, il y a cette histoire, parce qu'il y a quand même un Corse dans cette histoire, hein, qui s'appelle Droit commun, Ange Bassignano dit Droit commun. Et donc, et qui à un moment lance cette fameuse phrase: ne me tirez pas dessus, je suis pas français, je suis Corse. Et ça, ça fait une grosse polémique en Corse.
Oui, parce que je crois qu'à l'origine, il aurait dû être marseillais.
Oui, voilà, c'est ça.
Et comme il voulait tourner, je crois, dans l'île.
Oui, parce qu'en fait, il voulait tourner dans l'île parce qu'il trouvait l'île très jolie. Et donc, voilà, il en a fait un Corse, mais il n'y avait aucune poussée indépendantiste, comme on dit.
Oui, mais je crois qu'il a été interdit à...
Oui, d'autant plus que...
Dans des salles, je crois. Hein.
Oui, oui. Il y a eu...
Il a été retiré, voilà,
ouais,
de certaines salles.
Et puis, je pense que c'est aussi parce que le personnage est assez veule et sournois, parce qu'il joue en fait un Mac, hein, oui. On peut le dire. Et en fait, le personnage de Marion Cotillard, Valentina Tina Lombardi, va le venger. C'est ce qui l'amènera à l'échafaud.
D'accord. Parce qu'il y avait beaucoup de Corses qui sont portés volontaires pour finir avec la polémique, pour servir l'armée française. Donc cette phrase portait préjudice à leur mémoire.
C'est pas faux. Enfin, non, moi je dirais que c'est le personnage qui le dit, c'est pas la communauté corse. Donc voilà, c'est surtout ça. Je pense que c'est surtout parce que le personnage est assez antipathique. Voilà, c'est pour ça. Je pense qu'il aurait été dit autrement ou par un autre personnage.
Non, je pense que c'est la phrase en elle-même.
Voilà, donc il y a toutes ces histoires, il y a Chiqui Cario aussi, il y a Rufus aussi qui joue dedans. En plus, la bande-son n'est pas sans rappeler Les Sentiers de la Gloire de Kubrick aussi.
Oui, le thème, oui.
Donc voilà, et je pense que ça a un côté... Alors, c'est vrai que ça reste quand même évidemment dans ce côté idéalisé qu'avait déjà Amélie, puisqu'effectivement, Mathilde croit que son amoureux n'est pas mort, puisque quelque part, ça ne l'est pas dit. Il y a aussi toutes ces histoires un petit peu de hasard qui font que là aussi Dominique Pinon sa fameuse histoire avec son facteur, puisque à chaque fois il lui dérange son aller. Mais c'est un côté un peu plus sérieux qu'évidemment qu'Amélie. Évidemment, puisque le décor c'est celui de 14-18, ça amène aussi un côté un peu plus, tragique.
La guerre, oui.
Mais ça reste quand même effectivement dans ce côté assez idéalisé que porte le cinéma de Jean-Pierre Jeunet.
Oui, donc aussi on retrouve donc dans ce film une célèbre couleur, donc sépia, à l'image, qui évoque l'atmosphère des albums de BD de Jacques Tardy.
Tout à fait, oui, exact.
Et il y a certaines scènes qui font allusion au facteur. Du jour de fête de Jacques Tati aussi.
Oui, puisque.
Et puis, c'est pour finir aussi pour dire que le film a quand même coûté 45 millions d'euros.
Ouais, okay. Bah, oui.
Je crois que ça a été un des plus chers.
Oui. Et oui, parce qu'il y a aussi. Tu me fais bien de me faire parler de couleurs, puisque là aussi, pour le. Ça s'appelle l'Amélie Poulain, il y avait aussi pas mal de jaune. Et il y avait pas mal, par contre, de vert dans la cité des enfants perdus.
Oui.
Voilà. Donc, très couleur, le Jean-Pierre.
Oui. Donc la couleur sépia, on retrouve en photographie. Ça.
Oui, oui. Bah, oui.
C'est ce qui imite entre noir et blanc. Là,
voilà,
ça fait brun, ça fait pas gris le fond.
Oui, tout à fait. Je connais bien. Et puis, je dirais pas le dernier, puisque il n'est pas mort, hein, Jean-Pierre.
Non.
On peut le dire, hein, il n'est pas mort. C'est...
Micmac à Tire-Larigot en 2009,
voilà.
Avec Danny Boone,
ouais,
Dussolier... Aussi,
voilà.
André.
En méchant cette fois-ci, et pas en voix off.
Nicolas Marié, Julie Ferrier, donc encore Monsieur Pinon, Monsieur Jean-Pierre Mariel,
oui.
Yolande Moreau et Omar Sy.
Omar Sy, oui.
Non, Sy maintenant.
Oui, Sy. Okay. Ah oui, d'accord, ok.
Il va attaquer sa carrière aux États-Unis.
Oh,
on dit
Omar Sy. Bah, faut faire gaffe, hein, parce qu'Omar là-bas.
Tant qu'on ne trempe pas de l'eau.
Oui, c'est ça.
Oui, donc vas-y, mon petit.
Donc, fin 1970, au cœur du désert marocain. Une explosion retentit, alors que des soldats français sont en plein travail de déminage. Le téléphone sonne dans un pavillon d'une banlieue française. Basile, 9 ans, qui est joué par le fils de Danny Boone, voit sa mère pleurer. 30 ans plus tard, Basile reçoit une balle dans la tête, alors c'est accidentel, mais il la reçoit quand même, il survit. Mais la balle reste logée dans son crâne, et d'ailleurs il aura des séquelles. Il perd ainsi son travail et finit dans la rue. Il est recueilli par une bande de chiffonniers, Remington, qui jouait donc par Omar Sy, qui ne parle que par expression désuète, dépotrominé, lui je l'adore. Calculette, Marie-Julie Bopp, alors est-ce que c'est la fille d'Elie, qui peut tout évaluer et calculer en un clin d'œil. Fracasse, Dominique Pinon, qui a battu le record de l'homme canon. Placard, Jean-Pierre Mariel, qui a survécu à la guillotine. La môme caoutchouc, qui est jouée par Julie Ferrier, et qui sera évidemment l'amoureuse de Basile, une contorsionniste. Petit Pierre, Michel Cremades. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup vu des films dans les années 80-90, dans les petits villages français, mais ce monsieur a une tête très très connue. Ah bon. Il faisait toujours des petits personnages qui bricolent des automates et des mécanismes de toutes sortes. Alors, et qui a une force surhumaine. Hein. Il est tout petit, mais il arrive quand même à porter un moteur, quand même, le type. Et tout ça est dirigé par la fameuse Tambouille, donc Yolande Moreau, sortie de son rôle de concierge d'Amélie. Oui. La cuisinière qui a adopté toute cette tribu. Donc voilà, et puis un jour, Basile tombe par hasard. Alors, le hasard chez Jean-Pierre Jeunet, est-ce que ça existe?
Non.
Sait-on jamais. Devant les bureaux des deux compagnies, il se souvient du logo des deux armes qui ont brisé sa vie. Et de là, évidemment, il va créer une vengeance pour pouvoir réparer le tort qui lui a été fait. Alors, les deux manufacturiers sont joués par André Dusselier, qui joue donc le rôle de Nicolas Thibault de Fenouillet, et Nicolas Marie, qui joue François Marconi. Déjà, à l'origine, c'est Jamel Debbouze qui aurait dû jouer le rôle de Basile.
Ah oui, oui.
Et puis, il l'avait pas voulu. Puis, il y avait, je sais pas si tu te rappelles de cette séquence, quand ils sont sur les toits et qu'ils font descendre les micros. Si. À un moment, il y a un clin d'œil à Délicate et Saine, puisqu'ils descendent et puis on voit le personnage de Dominique Pinon qui joue de la suite musicale avec le rôle, le personnage de Julie qui joue du violoncelle.
Juste expliquer le titre, donc tire l'argot.
Attends, parce que logiquement, en fait, ce qu'ils auraient voulu faire à l'origine, c'était faire un petit passage, c'est qu'ils descendaient et en fait, on aurait vu Amélie Poulain enceinte. Voilà, et Nino Cacampois qui serait devant la télévision. Mais malencontreusement, tout à fait. Et Audrey Toutou, elle n'était pas libre à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont repris cette scène de délicatesse. Donc tu disais.
Donc Tira Rigaud, ce qui veut dire donc c'est en grande quantité, et Micmac, intrigue ou manigance. C'est juste pour un peu expliquer le titre.
Bah, je disais que moi, c'est, franchement, ça ressemble à tout ce que fait Jean-Pierre Jeunet, puisque c'est toujours des personnages hauts en couleur, qui sont souvent monocaractériels. Omar Sy, donc lui, il parle que avec par expression. Genre comme Isabelle Nanty dans Amélie Poulain, elle est toujours malade.
Donc, Micmac à Tire-Larigot est une comédie satirique donc sur le monde des marchands d'armes. Monsieur Jeunet donc apporte un regard nouveau et original sur le thème du trafic d'armes par rapport aux nombreux films qui le traitent de façon grave, comme Lord of War.
Oui, avec Nicolas Cage.
Qui est aussi génial.
Qui est super.
Oui. Par exemple, For Example in English.
Yes, indeed.
Yes. En effet, la responsabilité des fabricants d'armes sur les victimes, merci, de guerre est présentée sous l'angle de l'absurde et de la fantaisie, un univers déjà développé dans les précédentes réalisations de Monsieur Jeunet, notamment Le fabuleux destin d'Amélie Poulain,
ou
Délicatessen. Cette fois-ci, donc il va s'employer pour interpeller le spectateur par le rire. Oui,
oui, par le rire, oui, tout à fait, non. Puisque c'est quand même assez drôle.
Sur le lien entre les trafiquants d'armes et le développement des conflits militaires dans le monde, le réalisateur avait déjà traité le thème de la guerre et de ses funestes conséquences dans le film Un long dimanche.
Oui, puisqu'en fait, la vengeance, ça va être de faire affronter l'un
contre l'autre.
J'adore, c'est comment ça s'appelle, le personnage d'André Dusselier qui collectionne des articulations, des œils, des bouts de rognons d'ongles et tout.
C'est énorme, ça.
Moi, je vois ça, c'est génial. Donc voilà, non, alors moi, tu vois, autant sur Délicatessen, sur La Cité, même le long du manche de fiançailles, où forcément Amélie, mais bon, lui, il est quasiment hors catégorie. Moi, je l'ai trouvé, alors, un peu moindre. Alors, il y a évidemment le petit clin d'œil, puisque quand même, dans le film, on voit l'affiche, la présentation du film quand même.
Oui.
À un moment, on le voit.
Il y a quelques bons moments d'humour.
Oui, il y a quelques bons moments d'humour, puis moi, surtout Omar Sy, hein, moi, celui-là, je... Mais,
c'est ce qui sauve le film, je pense, les personnages comme ça.
Oui. Oui, parce que bon, l'histoire elle est quand même assez
banale.
Je dirais pas banale, mais enfin bon, c'est du
bateau,
du revu et ressucé. Mais disons que si. Mais non, mais je sais pas. Je pense que quand t'es réalisateur, je veux dire, tu fais une dizaine de films, il y a toujours un ou deux qui sont moins réussis. Et ben voilà, celui-là, il est moins réussi parce que je sais pas, il y a un truc, on y croit moins quoi.
Oui.
Donc moi je sais pas pourquoi, mais franchement celui-là, moi j'ai moins accroché. J'aime bien Danny Boone, Jean-Pierre Marielle et les autres.
Tu m'as pas dit que t'aimais Danny Boone.
Baby Boom comme on dit. Non mais voilà, mais et puis le personnage
je trouve qu'il va pas dans ce
Peut-être que effectivement, j'aurais bien aimé voir effectivement si ça avait été Jamel, si
moi,
ça.
Non, j'aurais plus vu Dupontel dans le rôle.
Ben, Albert Dupontel, on le voyait déjà dans le dans comment ça s'appelle
dans Bernie.
Dans Un long dimanche de fiançailles.
Oui, mais là, il aurait bien fait.
Mais celui-là, non, je pense pas parce qu'il fallait quand même qu'il y ait un personnage qui était un peu doux. Je pense pas que Albert Dupontel soit bien dans ce rôle-là. Je pense qu'il aurait fallu non Jamel, ça aurait été bien quoi. Mais bon, après, sur tout un film, je sais pas, franchement.
Oui, bon, on va pas refaire le monde.
Ouais.
Donc, le film attire également l'attention du spectateur sur la précarité et la solitude qu'elle engendre en montrant que la misère n'épargne personne et que le plus malheureux des hasards peut entraîner tout un chacun dans la rue du jour au lendemain.
Tout à fait.
Cette évocation permet de mieux mettre en valeur le thème fédérateur de l'œuvre. Donc c'est la solidarité, qui permet aussi aux héros du film de triompher des tourments de la précarité et finalement de ceux dont les armes ont causé toute sa souffrance.
Et comme disait un russe, ensemble, on n'est pas tout seul.
Voilà. C'est vrai ?
Oui, tout à fait.
Ça commence par un S ?
Oui, c'est ça. Mais puis de toute façon, on le voit souvent. Il y a toujours une histoire de famille chez Jeunet, que ce soit dans la cité, Délicatessène, c'est carrément un immeuble. Oui. Dans Amélie, elle a tous ses amis.
Dans Alien, c'est le groupe là.
Voilà, c'est le groupe, les mercenaires.
Ouais.
Donc il y a toujours une histoire d'une bande, d'une famille. Qui se construit contre les autres, contre les puissants, dirons, puisque dans Alien, c'est contre l'industrie militaro-scientifique.
Oui.
Donc voilà. Et puis, alors,
le petit dernier.
L'année prochaine.
Non, c'est cette année.
Oui, cette année, excusez-moi, c'est vrai que je suis resté en 2012. Jean-Pierre Jeunet va sortir l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivet.
Ça sort le 23 octobre, ça.
C'est ça, oui. Et donc l'histoire de T.S. Pivet, qui est un jeune garçon sourdoué et qui vit dans le Montana. Il reçoit un appel de Washington D.C. l'informant qu'il a gagné un prix scientifique mondialement renommé. Sans prévenir qui que ce soit, il décide de traverser seul les United States of America en direction de la capitale, seulement avec un télescope, quatre compas et les mémoires de son arrière-arrière-grand-mère, T.S. veut ce prix, mais le jury ignore qu'il n'a que 12 ans. Alors, il y a Helena Bonham Carter qui joue dedans. Forcément, Dominique Pinon.
Pour conclure, quand même, t'as pas un mot sur Monsieur Jean-Pierre Jeunet ?
Si, moi je dirais un mot.
Il y a quand même une filmographie bon, qui est bonne. Hein, quand même.
Oui, c'est vrai que... Bah, je dirais que moi, s'il fallait résumer effectivement Jean-Pierre Jeunet en une phrase, moi je dirais que quand même c'est...
En pas ton Télérama, ça énerve ça.
Mais si mon cher, tout à fait.
Je dirais que t'as un appareil dentaire.
N'est-ce pas, hein, c'est génial. Et ben moi je dirais que c'est avant tout onirique. Onirique, voire même utopique. Enfonçons-le jusqu'au fond de la gorge, puisque quand même, on a ces œuvres qui sont quand même comme Délicatessène, comme La Cité, La Cité des Enfants Disparus, hein, c'est par la TC.
Oui.
Voilà, je résume parce que les titres, des fois, sont assez longs.
C'est vrai qu'ils sont longs, ces titres.
Hein. Voilà, oui, bah, il aime bien ça, hein, c'est son trip. Hein.
Sauf Délicatessène.
En peu de films, il a créé un univers et qui ne lui appartient qu'à lui. Comme on avait vu avec Pedro Almodovar, qui était carrément dans lui, dans le côté loufoque, je dirais entre guillemets bouffon. Puisque... Donc voilà, moi j'adore. Franchement, j'ai adoré. J'ai revu Amélie il n'y a pas longtemps.
C'est vrai.
D'ailleurs, elle te dit bonjour.
Laquelle?
Mais,
ah, Amélie.
Pas ouais. Maurismo. Ah. Non, pas Maurismo. Par contre, elle te raquette.
C'est nul, hein. C'est pitoyable, t'as te bouffé des carambars. Non, c'est juste pour dire aussi que bon, surtout les personnages ou en couleur.
Oui, hein. Mais voilà, c'est ça.
C'est ça, avec toutes ces. C'est vraiment bah, les tranches du cinéma.
Quoi. Bah voilà, puisque la dernière fois, on avait parlé de Sergei Eisenstein qui utilisait beaucoup de gueules. Bon, c'est vrai que c'était des films plutôt muets à l'époque. Donc, effectivement, il fallait un faciès. C'est vrai que lui, il les utilise vraiment à bon escient, filmés souvent de près, et pas vraiment dans un cadre où on va les rendre plus beaux, quoi. Puisque c'est vrai que le personnage de Crank est rendu assez affreux. Le personnage aussi de Dreyfus dans Délicatessène aussi.
Oui.
En même temps, c'est un peu normal, c'est les méchants, on va pas les montrer non plus sur leur bon côté. Ils sont là pour faire peur. Des duos Caro et Jeunet, Délicatessène et La Cité des Enfants Perdus. Ceux-là, il faut absolument les voir parce que c'est vraiment des petits bijoux. Des petits bisous. Oui, non. Des bisous.
Ok, bon, bah, on va faire un tour maintenant au rocher enneigé.
Oui, là, tout à fait, enneigé.
Oui, donc on va commencer par Renoir.
Oui, oui, Augustin.
De Gilles Bourdi.
Oui, Bourdi.
Bourdi, avec donc Michel Bouquet.
Bouquet, oui, oui, qui joue donc Auguste Renoir.
Bon, Christa Thiré.
Oui.
Thomas Doré, Michel Gleise. 1915 sur la cité. Non, sur la Côte d'Azur.
Wesh. Planète en Marseille. Non,
1915, donc sur la Côte d'Azur, au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir, c'est sur la peinture, il faut le dire.
Oui, oui. Ah bah oui, 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 excuse-moi,
des
Auguste Renoir.
Pas, hein.
Oh bah d'accord, bah, et qui sculpture un peu. Hein.
D'accord, donc Auguste Renoir est éprouvé par la perte de son épouse, les douleurs du grand âge et les mauvaises nouvelles venues du front. Son fils Jean est blessé. Mais une jeune fille,
Eine Fräulein,
yeah, gut, André, apparue donc dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une énergie qu'il n'attendait plus. Donc éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, André sera le dernier modèle du peintre, sa source de jouvence. Donc on est loin du biopic terne et ronflant. Gilles Bourdis donc signe un épisode biographique lumineux et passionnant.
Oui, parce qu'en fait il y a le fils qui va apparaître, Jean. Qui va apparaître et évidemment il va y avoir une idylle entre lui et André. Et quand même Jean Renoir, c'est le cinéaste quand même. C'est pas n'importe qui quand même.
Ah d'accord.
Et ouais, parce que effectivement l'épisode ineffarable du vieux maître isolé qui d'un coup découvre une jeune fille qui va le faire revivre, c'est vu et re-revu. Par contre, la rivalité père-fils, ça va être pas mal à voir. Alors celui-là, il faut vraiment le voir. Michel Bouquet, évidemment, extraordinaire comme d'habitude. La jeune actrice qu'on avait trouvée dans LOL,
c'est elle
qui
joue,
qui est vraiment extraordinaire.
Sophie Marceau.
Oui, oui, et d'accord, qui va jouer dans L'homme qui rit. C'est le
de la vache.
Oh waouh. Et puis on dit de moi, hein, en niveau humour. Et non, le film qui a été fait d'après l'œuvre de Victor Hugo, qui va sortir cette année. Donc voilà, elle joue dedans. Bah, je vous mettrai la bande-annonce sur le site FB de ATC.
C'est super. Alors après, on va passer par celui-là. Celui-là, il faut vraiment aller le voir.
Ah quoi. Oui, oui, celui-là, il faut aller le voir.
Hein. Plus que Renoir.
Ah bah, oh.
Bah, ah bah oui, il allait dire.
Non, c'est bah pas non, pareil, mais c'est pas attends, pareil, c'est Anderson, pas. C'est autre chose, c'est pareil, forcément. C'est je veux dire, Renoir.
Donc, The Master. The ouais. Master of Puppets. De Metallica.
Non, ouais, non.
Donc, ouais, non. Paul Thomas Anderson, donc c'est avec Philippe Seymour Hoffman, Amy Adams.
Oui, la fille qui de Clint Eastwood dans la Nouvelle Chance.
Et Joachim donc Phoenix.
Ah oui, excellent.
Donc ils ont eu un Lion d'argent, donc meilleur réalisateur pour notre ami Anderson. C'est un de ses meilleurs films d'ailleurs. Et les deux acteurs, Seymour Hoffman et Phoenix.
Phoenix,
donc ils ont eu la coupe Volpi du meilleur acteur pour le Festival International Venise 2012.
Mm-hmm.
Et ils ont 3 nominations aux Oscars 2013.
Ah ouais, non, mais ça le mérite. Oui, parce que quand même, il avait quand même fait des sacrés bons films, le Anderson. Hein, quand
oui,
même.
Mais je crois que c'est le meilleur.
Ah oui, carrément, toi tu te lances
oui,
en
oui,
te
dis...
oui parce que moi j'avais beaucoup aimé Magnolia. Oui, Magnolia.
Ah, bon.
Avec Tom Cruise, tu sais,
oui, oui,
en Monsieur Bitas là.
Oui.
Puis
il était en 2012 ou 2011 celui-là.
En 99. Tu sais là où il pleut des grenouilles à un moment là. Ouais. Puis There Will Be Blood, c'est qui est sorti en 2007 avec
Mais il est bien aussi celui-là, There Will Be Blood.
Ah oui, il est extraordinaire, hein, avec Paul Dano et comment ça s'appelle, Daniel Day-Lewis, de toute façon Daniel Day-Lewis, qui va d'ailleurs cette année prendre les traits de Abraham Lincoln. Oui, bientôt.
Février, le 20 février, oui, Non, c'est Zola. Non, pas Zola.
Émile. Vas-y, Mimile.
Je croyais que t'allais donner les 6 autres.
Les 6 autres? Non. D'accord. Les 6 autres? Non, je 6 autres, personne moi. On m'a dit que je coupais trop de cadavres, alors maintenant, plus de violence.
D'accord, donc Freddy, c'est le synopsis, hein, pour pas qu'il soit perdu. Donc Freddy, un vétéran, revient en Californie après s'être battu dans le Pacifique. Alcoolique, il distille donc sa propre gnole et contient difficilement la violence qu'il a en lui.
Mmh.
Quand Freddy rencontre Harry... J'ai trompé de film.
Oui, pourquoi pas, maintenant.
Freddy rencontre Lancaster Dodd, le maître charismatique meneur d'un mouvement nommé La Cause.
Mmh.
Il tombe donc rapidement sous sa coupe. Donc c'est, on peut dire, comme je disais tout à l'heure, c'est le meilleur film d'Anderson à ce jour. La maîtrise artistique est sublimissime. Donc c'est surtout pour voir le choc entre les deux grands acteurs que j'ai su nommer, qui ne s'oubliera pas. Donc en ces temps de production, sitôt vu, sitôt oublié, je master of Puppets. Metallica, écoutez vraiment cette chanson.
Oui, tout à fait.
Ne peut être que fortement recommandée.
Alors il faut aussi, là on va pas soulever parce que...
Ne soulève rien, tu n'as pas les bras pour.
Assez pour te faire un bras d'honneur, mon petit père. Et enfin, du moins un. Et disons qu'il y avait quand même une sacrée polémique, puisque l'église de Scientologie avait quand même.
Nos amis.
Oui.
Tu vois, tu dis oui, toi. Tout en oui. Bon, allez.
Donc, avait soulevé Tom Cruise par
ils
la
ont
même.
Soulevé Tom Cruise. Putain, c'est pas dur, 1m60.
Oh, c'est pas bien, on ne se moque pas de la taille des gens.
Je me moque pas de sa taille, je me moque de sa grandeur d'esprit.
Ah d'accord, mais c'est vrai que donc avait quand même voulu que ce film soit retiré puisque finalement c'était pas sans rappeler la création de cette église, la fameuse de Ron Hubbard. Donc voilà. Donc à part que Anderson lui il avait pas vraiment spécifié que c'était sur la secte. Hein. Si vous voulez voir un film sur la Scientologie, c'est pas celui-là qu'il faut aller voir. Hein.
C'est lequel?
La Dianétique. Voilà. Mais par contre, il faut payer cher pour le voir.
Oui.
Donc voilà. Donc il y avait eu quand même une mini polémique là-dessus.
Donc, sitôt tu, de toute façon.
Bah, c'est-à-dire que l'église scientologue est assez puissante aux États-Unis, moins sur le continent européen, encore que soit en Espagne, elle est quand même son implantation, moins en France et en Allemagne.
Ouais, Lyon, elle est pas mal. Hein.
Oui, non, je sais. Puis bon, on avait quand même eu des bisbilles quand Tom était venu voir Nicolas, notre cher petit. Oh, bah,
non, temps, entre en gens de même taille.
On avait dit qu'on se moquait pas des gens de même. Mais voilà, donc, oui, puisque tu sais qu'il avait quand
c'est
même.
C'est peut-être un club.
Oui, c'est ça.
C'est comme les gens écartés qui ont fait leur truc, voilà, comme Vanessa Paradis, voilà, c'est ça. Noah, ou...
les dents du bonheur, on appelle ça.
Voilà, merci monsieur.
Et puis bah, c'est-à-dire que c'était tous adeptes de Passepartout. Donc effectivement celui-là comme l'a dit Hugo, il faut absolument le voir. Moi j'ai des gens qui sont allés le voir qui m'ont dit qu'il était un peu long, qu'ils ont pas tout compris.
C'est pas flatteur pour eux hein. Tu leur as dit que tes potes sont simples d'esprit.
Non mais
si t'as dit ils ont pas tout compris.
Bah ils ont pas tout compris,
il est
attends,
long ou pas est-ce qu'il est long ce film?
Il est long, 2h17.
Ah d'accord.
Par contre non parce que oh, regarde, si
au
tu Pestel, veux
il sera en VO hein.
Ouais. Si tu veux aller voir un truc où tu comprends des fois pas, tu peux aller voir Tree of Live de Terrence Malick et là tu m'expliqueras un petit peu tout aussi hein.
Ou Antichrist de Lars von Trier.
Ouais, c'est ça. Ou alors tu vas aller te taper la rétrospective Tarkovsky et puis tu m'expliqueras hein, certains trucs et certains mouvements. Donc voilà. Donc non et ça là, il faut aller le voir, que ce soit Renoir ou que ce soit The Master, puisque la semaine de l'écologie est terminée et que le Pestel retrouve. Je pense que ouais, je pense que c'est des fois il y a peut-être aussi des longueurs.
Ah, voilà. Longueur.
Parce que je veux dire, There Will Be Blood, là aussi, il y a des moments où tu dis, ouais, pas tout compris, quoi. Mais après, bon, bah, c'est Anderson, c'est comme ça.
D'accord.
Donc, mon cher Hugo, la settimana prossima, di che si habla?
Ben, comme nous avons fait le côté masculin de la testostérone, nous irons voir donc du côté de la vulve. Avec les expendables féminins.
C'est la séance vulvina.
Oui, avec Angelina Jolie, Michel Rodriguez et tout. Comme voilà, on parle d'un projet de expendable féminin, voilà, comme on en avait déjà parlé.
Jojovisme.
Oui, Jojovisme et toutes ces belles créatures.
Voilà.
C'est Gourney Weaver aussi qu'on fera.
Bah oui, on marque, c'est vrai. Oui, bah elle pourrait, c'est vrai que. Enfin, encore que ce soit vraiment que dans le rôle de.
Ellen Ripley. Mais elle a tourné dans un film d'action là dernièrement. Où il y a Bruce Willis aussi. Il meurt dans ce film. Je sais plus comment c'est le titre en anglais. Il joue le rôle de la méchante Sigourney Weaver.
Ah oui,
en 2012.
Ah
oui. The Coldplay of the. Non, ça commence par The Cold quelque chose.
Oui, exact.
Il est pas mal du tout.
Oui, il est pas mal celui-là, oui, effectivement, oui.
Faire vous passer un bon moment. Donc la semaine prochaine, voilà, sortez les bikinis.
Expendabellette.
Voilà. Non, Expendable.
Expendable, ah yeah. Oui, c'est vrai.
Expendable.
Eh bien, cher.
Auditrisme.
Et auditeurs, moi je vous dis
à jamais.
Voilà.
Au revoir.
Au revoir et ma foi.
Portez-vous bien.
Voilà, tout à fait. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma.
Et manger du bingo. Avec Amélie. What you do?
You'll shoot your eye out, kid.
I am serious. And don't call me sir.
There's no crying in baseball!
Whatever.
Man, the meatloaf!
It's not a tumor.
Price is wrong, bitch.
Hey, the Schwartz baby!
If you say her,
spew into this.
Yeah, baby, yeah!
I'm the dude. What are you looking at, butthead?
It's what? Like on the telephone.
I get over.